Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Est-ce qu'un enfant de Dieu est content d'être dans la maison de son Père?
Amen.
Je pense entendre des vivants. Est-ce que la vie passe?
Oui.
Bien. Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Amen. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour présenter les vœux.
On a tous les mots pour
tout. En tout cas, que Dieu nous bénisse, franchement, que cette année soit une année où on se laisse spirituellement, on en a besoin. Vous voyez combien de fois ce chrono la court, le temps passe vite pour que les enfants de Dieu se lèvent. Et cette année, que ça soit une année de réveil spirituel pour chacun de nous.
Amen.
En tout cas, que Dieu nous bénisse et qu'on persévère, qu'on demeure sous la boue du Très-Haut. C'est un lieu de repos, dit la parole. Alléluia. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui ont été éprouvés dans leur santé soient restaurés. Je voudrais qu'on partage donc une portion de la parole. Je vous demander d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 13.
Yahweh. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Yahweh, tu es le plus grand au-dessus de tout. Nous voulons t'adorer, Yahweh. Tu es le vivant au-dessus de tout. Nous voulons te lever, Yahweh. Tu es le vivant, au-dessus de tout.
Merci Jésus-Christ parce que tu es notre Dieu. Seigneur, tu nous fais une grâce infinie d'être notre Dieu. Et Seigneur, nous ne désirons pas l'autre en dehors de toi. Merci Jésus-Christ, toi qui nous aimes au point de te livrer toi à la croix de l'homme. Seigneur, tu as accepté l'humiliation de la croix. Tu as accepté la mort de la croix. Tu as été conduit au bois vers l'Éternel, en sorte que tu sois libre. Seigneur, je vais te bénir pour ta bonté. L'Église veut te bénir pour ta bonté, ta grâce, ton sacrifice. Seigneur, par ton sacrifice, ma dette a été payée. Lui, Seigneur, j'avais une dette qui valait le prix de ma vie. Seigneur, tu as payé pour que je suis libre.
Amen.
Que tout en l'air soit.
Pour toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Homme, ça c'est ma vie, à l'heure douce du soir. Homme, ça c'est ma vie, à l'heure douce du soir. Mon être entier te prépare, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a mon besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a mon besoin de toi. Mets à tes pieds, je m'inclis. Je t'appartiens sans retour.
Dans certaines versions, on dit que Pilate avait mêlé le sang de celui de leur sacrifice. Donc, des Galiléens faisaient leur sacrifice et Pilate les a fait donc les a tués. Ils sont venus donc informer Jésus-Christ. Certainement, ils voulaient partager un moment avec Jésus-Christ. Peut-être qu'ils attendaient le point de vue de Jésus-Christ sur l'attitude de Pilate. Mais Pilate, franchement, c'est pas bien. Et Jésus leur dit, au verset 2, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes ?» Jésus pose cette question immédiatement, après il donne la réponse. Il dit non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Jésus sonde les reins, sonde les cœurs. Et en venant à Jésus-Christ, Jésus savait qu'ils avaient une arrière-pensée. Il voyait les Galiléens, ce peuple-là, il y a toujours un peu le sentiment de supériorité, toujours un désir de juger un peu. Ils disent, mais Pilate a tué ceux-là, quelques-uns d'eux qui avaient fait leur sacrifice. Leur mort a été cruel. Oh, très souvent on se dit, mais dis donc, si sa mort a été aussi cruelle, c'est parce que franchement, il avait une vie vraiment de désordre. On a tendance à comparer un peu la nature de la mort ou la violence de la mort à la vie de désordre que la personne a pu vivre auparavant. On le voit souvent dans les films, même plus la personne a été violente, à la fin, tout le monde espère qu'il ait une mort peut-être tout aussi violente pour purger un peu ce qu'il a pu faire. Donc cette arrière-pensée était bien là. En fait, il ne venait pas seulement pour avoir le commérage, mais Jésus-Christ a sondé ce qu'il avait dans leur cœur. Et Jésus-Christ part sur toutes choses et les ramène à eux-mêmes. Non, je vous le dis, c'est pas parce que leur péché était plus grave qu'il a eu une mort aussi cruelle. Mais ce que je veux vous dire, ce que je vais te dire, ce que Jésus-Christ veut nous dire à nous tous maintenant, si vous ne changez pas, dit Jésus-Christ, si je ne change pas, alors je périrai aussi. Alors vous périrez tous. Et Jésus-Christ continue en disant, verset 4, Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Et la tour de Siloé se trouve à Jérusalem. Au début, ils indexaient les Galiléens, mais ils disent qu'à Jérusalem même, il s'est trouvé qu'une tour s'est effondrée sur certains de vos frères. Des Juifs comme vous. Croyez-vous que ces personnes-là étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem, que vous? Croyez-vous c'est parce que ils ont été plus méchants, plus coupables que la tour est tombée, même sur vos frères? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Même chez vous, ça arrive. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'ils sont plus pécheurs que les autres? Et je dis, Christ, martèle encore la même phrase. Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Bien-aimés, il y a deux mots qui doivent attirer votre attention. Et je voudrais qu'on s'y arrête. La parole dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et on sait aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui n'est pas péché? Je baisse ma main. Tous sont pécheurs en effet. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais ici, Christ met son doigt sur un sujet qui est un peu plus prégnant. Christ parle de périr. Y a-t-il une différence entre mourir et périr? Cela doit nous aider. Vous savez, Abraham est mort. Tu vois ce que la Bible dit. Il a dit qu'il était, il a vécu des jours heureux, il a été rassasié de jours. Il est mort à 75 ans, à 175 ans, et il a été recueilli près des siens. Abraham est mort. Moïse aussi est mort. Et d'ailleurs, c'est l'Éternel même qui a annoncé cela à Josué. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Moïse est mort. Amen.
Amen.
Et quand on lit la Bible dit que c'est vrai, dans le temps, il y avait les 9-5 ans, mais en tout cas, à notre temps, les plus costauds résisteront peut-être 120 ans. Ça veut dire que la mort fait partie des choses normales. C'est dans l'ordre des choses. Mais le problème reste périr. Quand on lit dans Nombres, vous connaissez cette histoire, peut-être que je peux y aller rapidement. Au Nombres, dans Nombres chapitre 16, vous vous souvenez des rebelles Coré, Dathan et Abiram. Je vais lire une portion de la parole, donc Nombre 16 à partir du verset 28. Pour vous présenter un peu le contexte. Donc, Coré, Dathan disait qu'il se plaignait de ce que, pour finir, Moïse donnait l'impression que c'est à lui seul que Dieu parlait. Et aussi, quand même, Dieu pouvait l'utiliser, donc il suscitait une jalousie, des murmures dans le peuple. Alors, lisez, en tout cas, je ne voulais pas, ce n'était pas tellement l'objet, je voudrais lire, donc c'était intéressant pour moi de le lire. Et donc, devant cette rébellion, oui, ça a déclaré une parole que je vais partager. À partir du verset 28, il a dit, Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens, en parlant de Coré, Dathan et d'Abiram, meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ça veut dire que la mort est un sort commun à tous les hommes. Donc si ces hommes auraient été en vivant et tous ceux qui se sont rebellés contre moi meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent ce sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait quelque chose, dis-lui. Si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et la Bible dit au verset 31, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous leur et qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de la cité. Amen.
Amen.
Mourir et périr. Corée, Nathan et Abiram ont péri. Parce qu'on dit qu'ils ont disparu du milieu de l'assemblée. Souvenez-vous aussi de Judas. Judas a fait son forfait. On peut le lire aussi dans Actes, chapitre 1. Je vais lire la page du verset 18. Cet homme, en parlant de Judas, ayant pris un champ avec les salaires du vide, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. On décrit la mort de Judas. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Amen. Personne ne l'habite. Il n'y a pas de suite. Tu es comme estirpé, comme enlevé du milieu des hommes. Péris. On sait que Jésus-Christ, notre Seigneur, aussi est mort. Mais la suite, c'est le séjour des morts, la résurrection et la gloire. Amen. Alors, Christ, par ses propos, met une nuance entre mourir et périr. Amen. Parce qu'il dit quoi? Si vous ne changez pas, dans certaines versions, on dit, si vous ne vous repentez pas, amen, tout péché appelle une repentance. Ce n'est pas les grands péchés seulement qui appellent une repentance. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le problème, c'est le péché. Ce n'est pas parce qu'il y a un tsunami ailleurs qu'ils sont plus pécheurs que toi. Ce n'est pas parce que le Covid frappe dans l'église évangélique qu'ils sont plus pécheurs que toi. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, un pasteur meurt accidentellement sur la route qu'il est plus pécheur que toi. Le problème, c'est a-t-il payé ou pas? C'est la question que l'enfant de Dieu va se poser. Nous allons certainement mourir si Christ n'arrivait pas avant. Mais est-ce que nous périrons? Cette question, je crois qu'elle est essentielle. Cette question est centrale dans notre vie. Elle est davantage aujourd'hui, où nous sommes témoins. J'imagine tous ceux-là qui ont prophétisé ces choses qu'ils n'ont pas vues. Aujourd'hui, tu es témoin oculaire. Les maladies, les invasions de sauterelles, des guerres, des bruits de guerre. Y a-t-il une actualité qui est plus prégnante que celle-là aujourd'hui pour toi? Oh, peut-être que les circonstances feront que tu mourras, mais est-ce que tu vis là? À quoi sert-il de gagner le monde entier si c'était pour perdre son âme? Parce que chacun court le risque de périr s'il ne connaît pas la repentance. Alléluia. Alors ce motif, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on est pécheur. C'est s'humilier devant son roi. C'est reconnaître que Christ, par sa mort, a pris sur la croix de péché. Et c'est lui lâcher le péché de Dieu et obéir. Nous en avons besoin. Oui. Ce n'est pas parce que Christ n'est pas en train de dire que la mort n'est pas la résistance du péché, en effet. Mais ne pèse pas, je ne sais pas comment le dire, il ne veut pas que tu te dises que celui-là, parce qu'il a beaucoup péché, sa mort a été violente. Non. Le vrai problème de la mort, c'est périr. Mourir, Christ est mort pour les ressusciter. Abraham est mort. On dit même que les anges, le diable venu se disputer. L'âme de Moïse, on vous dit, on peut mourir, mais il ne s'agit pas de périr. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et Christ, pour élucider sa pensée, pour expliciter davantage sa pensée, enchaîne avec une parabole. Je voudrais qu'on la regarde ensemble. On dit au verset 6, là-dessus, il raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Vous savez, les paraboles nous ramènent toujours dans le réel. L'homme, ça représente qui? Ça représente l'Éternel, notre Dieu, qui a une vigne. Et il y a un vigneron qui garde cette vigne, ce vigneron, c'est Jésus-Christ. Et il y a des personnes, des plantes dans sa plantation, ce sont les enfants de Dieu. Donc ici, on dit que un homme avait un figuier dans sa vigne. Dans une vigne se trouvent des raisins, n'est-ce pas? Et dans sa plantation qu'il entretient, qu'il laboure, qu'il entretient pour récolter ça, il a planté un figuier. Et il a planté, il n'a pas demandé au figuier de donner certainement du fruit le lendemain. Il a attendu que le figuier arrive à maturation, soit à mesure de produit. Et comme le dit le pasteur, le figuier produit deux fois de récolte à l'année. Quand le figuier était à même de produire, on peut même le laisser passer une année. Ensuite, il est passé une première fois, il n'a pas trouvé de fruit. Une seconde fois dans la même année, il n'a pas trouvé de fruit. L'année d'après, il est passé, il n'en a pas trouvé. Ensuite, il est repassé, il n'en a pas trouvé. Ça fait déjà quatre fois. La troisième année, il est passé, il n'en a pas trouvé. Il est repassé, il n'en a pas trouvé. Alors il dit à son vigneron, écoute, cette terre que j'entretiens, que je laboure, cette terre qui a tout disposé pour moi, je prends le soin pour qu'elle produise, est encombrée par un arbre qui n'a pas sa fonction, qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Dans ces conditions, il faut le déraciner. Et puis, il libère l'espace, qu'il n'occupe pas inutilement l'espace. Qu'il ne gaspille pas l'énergie que je mets à entretenir la terre où il est planté. Frères, sœurs, cela nous ramène à nous. Tu es enfant de Dieu et tu es dans la plantation de ton Père. Tu bénéficies des soins de ton Père. Tu le bénéficies de la parole, des conseils des anciens. Tous les jours, le Seigneur bêche la terre autour de toi. Il arrose la plante que tu es. Il te parle des paroles qui vont te réduire. Et tu es là, dans la plantation, et tu ne portes aucun fruit alors que tout te dispose à porter du fruit. Celui qui a fabriqué la menthe espérait qu'on puisse y vivre l'heure. Ça veut dire que toute chose a une fonction. Tu es là, tu es un arbre, tu es censé apporter des fruits pour satisfaire ton maître qui t'a entretenu. Et tu es là, oui, je suis fils de pasteur, oui, je suis dans le terrain, mais tu viens pour le confort parce que tu as besoin de chauffer et tu ne portes aucun fruit. Peut-être que tu viens parce que, ah ben, les chants, vraiment, c'est agréable quand ils chantent, mais pour toi-même, tu ne portes aucun fruit. À quoi es-tu utile? À quoi es-tu utile? Es-tu utile pour ton maître? Puisque c'est lui qui t'a planté. C'est lui qui espère quelque chose de toi. À quoi es-tu utile? Est-ce que tu n'occupes pas inutilement la place? Tu n'occupes pas toutes les richesses? Tu ne respires pas son air? Tu ne manges pas sa nourriture? Ou de rien produire du tout? Est-ce que véritablement ce n'est pas mieux que tu sois déterré pour qu'une autre personne ou un autre arbre qui est disposé à produire soit planté à ta place? Alors le maître, un bon gérant, dit bon, écoute, il occupe inutilement la terre de la cible. Mais si certainement il en consommera moins. Qui en donnera peut-être plus aux autres. Et le vigneron, un bon intercesseur, dit au maître, il dit au verset 8, « Maître, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras arracher. »
Amen.
Alléluia.
Amen.
Il y a un intercesseur qui plaide pour que tu examines ta présence. Le temps de porter du fruit à lui. Le Seigneur donne un délai d'un an dans la parabole. Il te donne encore un délai. Il va te nourrir encore de sa parole. Il va bêcher autour. Il va te porter les soins nécessaires. Parce qu'il sait que tout en toi pour quoi tu veux fuir se trouve déjà installé en toi. Mais un an, c'est beaucoup, mais c'est même un peu. Attendant, tu as la 365e jour pour commencer à porter du fruit. Christ intercède pour nous. De la même manière que Christ intercède pour toi, tous ceux qui sont autour de toi, tous ces hommes de Dieu que Dieu a mis, font ce travail de bêcher la terre. Resteras-tu sourd à tout l'effort? Vous savez, le pasteur Pierre, avec tout l'amour qu'il peut avoir pour ses enfants, enseignera tant qu'il peut, conseillera tant qu'il peut.
ne pourra jamais leur donner le salut si eux-mêmes se lèvent pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager parce que le salut est pour Dieu.
Alléluia.
Dieu va avoir une relation personnelle avec toi. Il veut que tu prennes une décision. Alors tous ceux qui sont autour te tiennent la main, te reprennent, t'encouragent. Reste là, tu es sous ma robe. Ça fait déjà 3 ans que tu étais censé porter plus lui. Ça fait déjà 3 ans que tu étais censé porter plus lui. Mais va-t-on attendre encore 3 autres années? Cherchez le Seigneur pendant qu'il s'y trouve encore. Dis la parole. Le temps ne vous appartient pas. Le lendemain ne vous appartient pas, et c'est vrai. Et je veux continuer. Et Christ, une situation n'est pas complexe se présente pour l'esprit. Parce que c'est ça la suite. Un cas complexe se présente. Au verset 10, on dit un jour de sabbat, Jésus enseignait à la synagogue. Un jour de sabbat, Jésus-Christ enseignait à la synagogue. Il a pris le tunnel, il pêchait la terre, il retournait la terre, il arrosait la synagogue. Et il s'y trouva une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise de l'esprit qui la rendait infirme. 18 ans d'infirmité. Un enfant de Dieu, qui était dans la synagogue, qui était dans le temple, qui était dans l'église comme toi et moi, depuis 18 ans, était sous, j'allais dire, l'emprise de l'infirmité. Amen. Alors Jésus l'a vu, il appela et lui dit, femme, tu es délivrée. Alléluia. Femme, tu es délivrée de ta infirmité. Il ne dit pas, femme, je te délivre de ton infirmité. Il dit, femme, tu es déjà délivrée de ton infirmité. Il y a une nuance. Tu es délivrée de ton. Il ne dit pas, femme, je te délivre. Il ne fait pas poser. Non, le travail est déjà accompli. Mais l'ennemi, on dit que cette femme-là était voûtée. Ça veut dire qu'elle était pliée, le regard tourné vers elle-même. Frère, ça, c'est l'œuvre du diable. Comment faire en sorte que tu ne lèves pas ton regard pour regarder au-delà de ton infirmité? Tu es là, tu ne regardes que ce qui ne va pas. Tu es retourné sur tes fardeaux. Il ne veut pas que tu lèves les yeux parce qu'il sait que ta délivrance est déjà là. Mais il te pousse, il te prie en deux en sorte que tu sois dans les murmures. Ô Seigneur, voilà l'évangile et mon travail. Tout en retournant vers toi, impossible de lever la tête parce que plié par le diable. Frère, Dieu nous parle à nous tous. Peut-être que c'est la maladie. Que Dieu te dise, un peu la prophétie du Seigneur. Peut-être que c'est la maladie. Mais ton regard est tourné vers la maladie. Et tu ne sais pas que Christ a tout pris à la croix. Ton regard est toujours sur ton propre foyer. Au point où tu n'as même pas la possibilité de lever la tête. Tu es dans les murmures. Tu pries. Le Seigneur te répond, mais tu n'entends pas. Parce que tes yeux sont rivés sur ton infirmité. Plié par deux. Alors que la délivrance est déjà là. Bien-aimé, c'est sur la vie. Le diable ne te montrera jamais si tu vas te faire avancer, jamais. Ah oui, quand tu as des problèmes de couple, sans seulement va te montrer un couple où vraiment ils sont en train de s'embrasser, à chérir, etc. Et toi, tu dis là, pour que vraiment la révolte monte à ton cœur. Tu as des problèmes d'enfants, tu vois quelqu'un avec ses nombreux enfants, il court, il saute, et tu n'en as pas, tu te sens seul. Et pas ton regard focalisé sur ces choses-là, c'est ce qui te manque. Ça, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Dieu dit que votre désert va te faire venir. Est-ce que tu peux savoir que tu as la ressource là où tu es? Et ça, le diable ne peut jamais te savoir. Jamais. Son œuvre, précisément, c'est que tu ne vois pas cela. Amen. À l'enfant de Dieu, le Seigneur pêche de tout bien. Le Seigneur a tout accompli. À la croix, a dit tout est accompli. Ça veut dire qu'il a apaisé le cœur du Père par le sang qui a coulé avec le Père. Il a aussi apaisé le cœur de l'homme qui est délivré. Mais comment saisir cette délivrance? Vous savez, je me disais dernièrement, je me suis rendu compte que souvent, on croit qu'on va chercher sa délivrance. C'est comme si on allait arracher quelque chose par nos forces, la délivrance. Et tous ceux qui vont dans cet esprit pour obtenir la délivrance, reprennent toujours la même démarche. Parce que ce n'est pas de ta force que tu veux arracher la délivrance. Non. C'est Christ qui a accompli la délivrance. On sait que ça ne délivrance par la foi. Amen. Ça, il faut le comprendre, bien aimé. Pour nous qui avons parcouru de nombreuses églises, vous remarquerez que c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne qu'on prie pour le même sujet. Quand on finit celui-là, c'est un autre. Quand on finit celui-là, c'est un autre. Parce qu'il pense que c'est le pasteur qui enlève. Christ a payé un cadre. Il a assaini un cadre qui était pollué par le diable. Vous savez, le salut est gratuit, mais j'allais dire, c'est pas un cadeau. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on dit que Christ est. Non, non, on vient de là comme on veut. Il y a quand même un minimum. Ce n'est pas la foi qu'on saisit les choses. Ne pensez pas que c'est. Je ne sais pas. C'est les, non, ce n'est pas la foi. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on le comprenne. Sinon, on prend le risque d'être celui-là qui est improductif. Cette dame-là était à lui, il dit que c'est un enfant d'Abraham. Parce que je l'ai. On peut continuer avec lui. Ça veut dire que tu as déjà la bénédiction. Tu as droit à la bénédiction. Mais l'ennemi, il faut que tu pries pour que tu ne vois pas ce qui est appris. Et quel est le rôle de celui qui pêche la terre autour de toi? On dit que Christ, comme on dit, on dit seulement une femme qui depuis 18 ans il y a souvent plus de l'esprit. Il la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Le verset 3, on dit quoi? Il posa sa main sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Il posa sa main sur elle et immédiatement se redressa. La main que Christ pose, c'est quoi? C'est le secours que l'homme de Dieu t'apporte. Pour te dire, ouvre tes yeux, lève-toi, ta délivrance est là. Vous savez, le diable te montrera toujours les défauts. Ah oui. Il te montrera, tu sais, il te montrera toujours les défauts. Il ne va jamais te montrer la lumière. Et même si tu montrais la lumière, ce n'est pas la lumière. Parce que la Bible dit, en décrivant le diable, que c'est un menteur. Que son objectif, c'est pour égorger qui est. Il n'est pas venu pour autre chose. Alors si le diable te proposait un plan de salut, sache que tu t'es trompé complètement. Ce n'est pas son rôle, il n'est pas venu pour ça. Il n'a pas ce projet-là du tout. Alors ne cherche pas les chemins de tourner parce que tu prends le risque de rester stérile, de rester au-delà des 18 ans. Prier, parce que le diable a autre chose, c'est lui. Parce qu'on dit quoi? Qu'est-ce qu'il a emprisonné? Qu'est-ce qu'il a poussé? C'est des esprits, des démons. Amen.
Amen.
Enfant de Dieu, Christ a accompli le délivrance à moi. Mais est-ce que nous devons accomplir cela? Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous le voyons? Je crois qu'on a besoin de prier. Dieu veut guérir. Dieu veut délivrer. Dieu veut restaurer. Dieu veut te voir rentrer dans la restauration qui est déjà disposée. Amen. Il a tout accompli à Golgotha. Ça veut dire que le trésor est disponible. Mais est-ce que toi, tu reçois les enseignements, tu les entends, ils entrent en toi, ils produisent des effets sur ta vie? J'ai un de mes fils qui a l'habitude de dire que le murmure, eh bien, c'est l'art de mettre des murs autour de soi. Il y a plusieurs murs, un murmure, ça fait au moins deux fois mieux dedans. Oui. Alors tu es plus mal de plus. Je suis parti dans mon pays, je n'ai rien. Alors que la délivrance est là. La délivrance est là. Amen. Alléluia. Si vous voyez le diable, quand on continue. Alors, quand Jésus-Christ a accompli cette merveille, ça veut dire que redresse un enfant d'Abraham qui depuis longtemps était censé bénéficier des grâces qu'il avait déjà disposées. De l'autre côté, ceux qui sont censés être les conducteurs, les encadreurs, qu'est-ce qu'ils disent? Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, les gens ont besoin de ne pas s'adresser directement à Jésus-Christ. S'adressant à la foule, il dit, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. Ah, vraiment cette reprise fait réfléchir, pasteur. D'ailleurs, la Bible dit dans l'Ancien Testament que les sacrificateurs qui œuvrent le jour du sabbat pour faire le plus Dieu travaillent. C'est un travail qu'ils font, c'est leur œuvre. C'est un peu comme Dieu n'a pas de le sabbat, c'est le jour du repos. Mais quand le pasteur vient donner un message, lui, c'est bien qu'il travaille. Véritablement, est-ce que apporter la délivrance à un enfant de Dieu, le jour du sabbat, peut être considéré comme un travail, si c'est le faire de Dieu? Alors Jésus-Christ, dans sa grande finesse, leur fait cette réplique, il dit, mais écoutez, mais ça ne reste pas à lui, hein. Mais Jésus-Christ comprend que c'est lui qui est visé. Mais ne vous faites pas vous guérir quelqu'un qui est malade, il dit, non, je dis, c'est comme c'est sabbat, vraiment, je ne veux pas attendre. Le lundi, comme c'est le jour où les médecins travaillent, souvent je vais partir les voir. Quelle absurdité. Quelle absurdité. Et ça, c'est le danger de la religion. Le danger de la religion, on établit des règles. Elles deviennent si dures que les règles même de nous les enferment. Et le cœur aussi continue de se fermer. Voici une personne qui n'a aucune compassion pour un de ses fidèles, qui pendant 18 ans, il était avec elle, il s'est plié. Un jour, aussi beau que ce jour-là où ton fidèle portait la délivrance, tu ne lui même pas dit gloire à Dieu. Tu dis, mais écoute, toi, je vais te venir, là. Tu dois venir lundi pour te faire guérir quand même. Nom de Dieu. Et c'est triste. Quand un conducteur ne sait pas donner la mer à celui qui a perdu son fils. Amen.
Amen.
Que son Christ, certains conducteurs, ne s'est pas donné la main comme Christ a donné la main pour que cette personne se réveille en lui posant les mains. Alors, il y a une querelle intestine, rien à peu. Le Christ leur dit, mais attends, vous, est-ce que vous ne donnez pas à voir à votre détail le jour du sabbat? Est-ce que véritablement vous laissez votre église faire une comparaison qui touche vos animaux? que le soin quand même de donner à voir. Pas plus fort que la salle de
Dieu me parle. Dieu me parle à chacun d'entre vous. Je veux que cet temps de silence soit des moments de réflexion chacun. Pour notre marche avec Dieu. Quel que soit notre niveau de responsabilité, à la maison de Dieu. Dieu attend quelque chose. Dieu attend quelque chose de toi. Parce que tu es planté dans sa vie. Parce que tu es planté sur la terre qu'il entretient. Parce qu'il espère que de toi naisse une semence nouvelle pour ensemencer d'autres terres. Il ne te veut pas stérile. Alors il fait tout ce qu'il veut pour que tu saches que la ressource est en toi. Mais bien aimé, le monde peut devenir aveugle sur ce que nous sommes. Tout l'effort de l'ennemi, c'est de nous donner la vie sur ce que nous sommes. Parce qu'il sait que la ressource est en nous. Parce qu'il sait que la force est en nous. Parce qu'il sait que la délivrance nous est acquise. Mais il y a un vacarme si grand dans le monde. Il y a une confusion si grande dans le monde. Il y a un murmure si assourdissant dans le monde. Que si tu me prends garde, tu n'arrêtes pas de parler avec Dieu. La Bible dit que quand Élie, après avoir massacré les nombreux prophètes de Baal, et seulement la plus peur, et il allait se réfugier dans une montagne. Il dit, il y a eu un vent violent qui est passé avec son baccard. L'Éternel est loin. La terre a tremblé. L'Éternel est loin. Et vers la fin, il dit, il y a eu un digue. Enfin même, est-ce qu'on peut prêter son travail à ce tour? Dieu nous dit qu'il nous a appris à vivre. Dieu nous dit de faire attention. Parce que le diable veut absolument que nos regards soient tournés vers tout ce qu'il ne faut pas. Le diable ne veut pas qu'on sorte du piège dans lequel il veut nous mettre, alors il nous rend aveugle sur ce qui est disposé pour nous. Mais Dieu dit, tu dois avoir un arbre péché autour de moi. Alléluia.
Amen.
Je voudrais que nous prions ensemble, que chacun puisse parler de sa vie. Tu as appelé à servir ton Dieu, parce que tu as la maison de ton Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce que tu as fait. Je veux que tu nous t'approches. Et parle à ton Dieu. Tous ensemble, nous prions le Seigneur, Père éternel. Je veux t'entendre parler à ton Dieu. Je veux t'entendre parler à ton Dieu. Je veux t'entendre parler à ton Dieu. Ouvre ta bouche et puis parle à ton Dieu. Tu as entendu la parole que ton Dieu t'a dit ce matin. Dis qu'il t'a appelé à une œuvre. Est-ce que tu as pris place? Est-ce que tu as compris l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé? Ne veux pas parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il faudrait que Dieu ouvre nos yeux. On ne peut pas demeurer dans la maison de notre Dieu comme une plante stérile. Seigneur, dis Seigneur, à quoi tu m'as appelé? Tu me dis que j'ai encore un délai d'un an. Maintenant, Seigneur, que tu rentres dans ma place. Que j'accomplisse ton œuvre.
Tu es proche.
Seigneur, nous refusons cette affinité. Seigneur, nous refusons d'être priés, de regarder par l'éternel au défaut par l'éternel. Nous refusons que le diable nous plie en deux pour que la lumière que tu as disposée ne soit pas vue de notre regard par l'éternel. Seigneur, nous te demandons pardon par l'éternel parce que trop longtemps par l'éternel, nous avons écouté ta parole. Seigneur, c'est vrai. Tu as bêché la terre autour de nous. Tu l'as arrosé par l'éternel. Seigneur, nous avons, nous avons été nourris par ton air, par ton eau, par ta pluie, tous les jours, Père éternel. Nous n'avons pas fait grand-chose de cela. Seigneur, voici encore une année qui sous devant nous. Cette année, Seigneur. Il faut, Père éternel, qu'on nous donne notre grâce, que nous soyons les serviteurs que tu as donné. Merci, Seigneur, parce que tu nous interpelles encore dans ce début d'année, Père éternel. Seigneur, nous pouvons recommencer le courage avec toi. Que toute la voix de Dieu, toute la paix de Dieu. Amen. Est-ce que tu vas appeler le conseiller?